VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Morgane Diriac au micro, dans quelques instants CL+, avec Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité. Nous ouvrons sur la République centrafricaine. Plusieurs centaines de manifestants ont tenté d'envahir une base de l'ONU à Kagabandoro. Un manifestant a été tué dans les affrontements avec les casques bleus, a annoncé l'ONU, citée par la FP. La MINUSCA, mission de l'ONU en RCA, a procédé à des tirs de sommation contre les manifestants qui ont tenté de mettre le feu à la base et dont certains étaient armés de couteaux, a indiqué le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. République démocratique du Congo, l'Union européenne demande une enquête urgente sur la fosse commune découverte à Maluku, dans l'est de Kinshasa. La représentation européenne en RDC, qui dit partager les interrogations récemment exprimées au sujet de cette fosse, se dit prête à soutenir l'enquête. Selon les autorités, la fosse commune ne contient pas de corps de manifestants tués en janvier dernier. Il s'agirait plutôt de mort-nés, de fœtus, de corps abandonnés, d'indigènes et de personnes non identifiées. 421 morts qui auraient, selon Kinshasa, été enterrés pour désengorger la morgue générale de la capitale. Dolly Ibefo de l'ONG La Voix des Sans-Voix est loin d'être convaincue.
Nous ne pouvons pas dire que ce sont des indigents qu'on va enterrer notamment. Il y a une procédure qu'on a toujours observée lorsqu'on enterre les indigents. On informe les bourgmestres, certaines autorités judiciaires, et ils vont faire ça la journée. Cette fois-ci, on va faire ça notamment d'une façon précipitée. Donc c'est un problème qui nous choque quand on a parlé de fosse commune de 425 personnes. Il faut une commission d'enquête, et cette commission doit être une commission mixte et même indépendante. La commune de Maluku, tous ceux qui travaillent là-bas, les magistrats, même les bourgmestres, tout ce monde-là, et ils ne peuvent pas faire partie de la commission. On ne peut pas entendre, par exemple, un magistrat, un procureur de Kinkole ou de Maluku qui doit faire partie de ça. Non, nous soupçonnons tout ce monde-là d'être au courant qu'ils allaient enterrer des gens, notamment.
Dolly Ibefo de l'ONG La Voix des Sans-Voix à Kinshasa. La campagne électorale a officiellement démarré aujourd'hui au Togo en vue de la présidentielle du 25 avril. Le scrutin verra s'affronter principalement le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, et l'opposant Jean-Pierre Fabre. Les précisions avec Salwa Jafari.
La campagne électorale a démarré à minuit et déjà affiches et posters sont placardés à tout coin de rue. À Lomé, c'est un bras de fer qui s'annonce entre le président sortant, Faure Gnassingbé, et l'opposant Jean-Pierre Fabre. Le scrutin initialement prévu le 15 avril a été repoussé après les plaintes de l'opposition sur de graves anomalies dans le fichier électoral. L'ONG Synergie Togo, basée à Paris, affirme y avoir décelé 30% d'électeurs fictifs. La campagne électorale doit s'achever le 23 avril à minuit. Les forces armées qui vont assurer la sécurité du scrutin voteront par anticipation le 22 avril. Porté au pouvoir à la mort de son père, Faure Gnassingbé avait remporté en 2005 et 2010 les élections contestées par l'opposition. Tous ces scrutins ont été suivis de violences meurtrières. Au cours des derniers mois, le pays a connu de nombreuses manifestations des fonctionnaires, des médecins et des étudiants qui réclament de meilleurs salaires et des élections libres et équitables.
Conséquence de l'adoption d'un nouveau code électoral au Burkina Faso, l'ancienne coalition au pouvoir dirigée par le CDP suspend sa participation au Conseil national de la transition et à la Commission nationale de réconciliation. Quelle est l'importance d'un tel retrait pour la suite de la transition? La réponse du journaliste Newton Ahmed Barry au micro de Bagassi Koura.
Dans un premier temps, ça va, à mon avis, être symbolique, notamment dans le fonctionnement du CNT. C'est vrai que les 10 absents dans le fonctionnement du CNT, ça ne posera pas de problème du point de vue de la représentativité, de la légalité des décisions qui vont se prendre. Mais symboliquement, quand même, c'est un élément important parce que ça foule au pied un peu une des dispositions importantes de la charte, qui était l'inclusion. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être beaucoup plus compliqué en ce qui concerne la commission de réconciliation, parce qu'on ne se réconcilie pas seul. Si, malheureusement, on ne trouvait pas une solution pour qu'ils reviennent sur la table des négociations, ça deviendrait une réconciliation à sens unique. Ça n'aurait pas de sens. Il n'est pas imaginable qu'on aille là où on est en train d'aller aujourd'hui là, pour aboutir à une sorte de clivage du pays en deux camps.
C'était le journaliste Newton Ahmed Barry au micro de Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Lutte contre Boko Haram, N'Djamena compte 71 soldats tués et 416 blessés dans l'offensive lancée début février. Cela représente environ 10% des effectifs engagés, indique le chef d'état-major de l'armée tchadienne, cité par l'AFP. Au Kenya, les victimes du massacre de l'université de Garissa commencent à être inhumées. De nombreux étudiants et proches se sont réunis à la morgue de Nairobi aujourd'hui pour leur rendre un dernier hommage. Une semaine après l'attaque, des parents attendent toujours d'être fixés sur le sort de leurs enfants. Les migrants africains en difficulté en Afrique du Sud. Un millier d'entre eux ont dû fuir leur maison après une série d'attaques violentes à Durban. Ces migrants, africains pour la plupart, ont été hébergés dans des postes de police et des tentes. Des habitants du grand port sud-africain s'étant jurés de les expulser. Écoutons le témoignage de Marc Bafoumbafou, président de la diaspora africaine, qui suit de très près le dossier.
Depuis que le roi Goodwill a fait sa déclaration, quand il a dit que les migrants doivent faire leurs bagages et quitter l'Afrique du Sud, les attaques se sont accrues. Quand les gens parlent de Durban, c'est parce que peut-être qu'à Durban, il y a un très grand nombre de personnes qui se déplacent, qui délogent les migrants et parfois même les tuent. C'est pourquoi on parle de Durban. Mais sinon, les attaques xénophobes en ce moment, c'est partout en Afrique du Sud. Et malheureusement, le gouvernement, jusque-là, n'est pas sorti pour envoyer un message fort. Tantôt, certains ministres disent que les migrants doivent nous excuser et d'autres ministres viennent pour condamner. Donc le gouvernement ne parle pas d'une seule voix pour dire qu'ils sont unanimes sur le sujet. Ces attaques-là doivent s'arrêter. Hier nuit, il y a eu 3 Éthiopiens qui ont été tués à Durban. Les gens disent même que maintenant, les autorités veulent cacher, quand les migrants sont tués, ils veulent cacher pour ne pas que l'opinion internationale sache.
Accident de la route au Maroc. Un bus est entré en collision avec un camion à 1000 km au sud-ouest de la capitale, Rabat. Bilan 33 morts, dont de nombreux enfants. Dans le reste du monde, responsables cubains et américains confirment que le président Barack Obama et son homologue, Raúl Castro, se sont parlé par téléphone mercredi en prélude à une rencontre historique au sommet des Amériques qui s'ouvre aujourd'hui à Panama City. Ce sommet inclut pour la première fois Cuba. Et bien qu'aucune réunion officielle n'ait été programmée, le correspondant de la VOA, la Maison Blanche, s'attend à une interaction entre les deux présidents. Monsieur Obama a décidé il y a 4 mois de normaliser les relations avec la Havane. 2 avions chargés de 32 tonnes d'aide médicale ont atterri aujourd'hui au Yémen, où l'ONU réclame une pause humanitaire dans les combats pour venir au secours des civils affectés par le conflit. Les cargaisons de médicaments et de matériel médical sont les premières à être embarquées par voie aérienne à Sanaa depuis le début, il y a 17 jours, des bombardements de la coalition de 9 pays conduits par l'Arabie Saoudite. 8 personnes sont mortes aujourd'hui dans 2 attaques à Bagdad et ses environs, l'une près d'un hôtel et l'autre dans un restaurant. C'est ce qu'a indiqué la police. De telles attaques étaient quasi quotidiennes l'an passé à Bagdad, mais elles ont nettement diminué cette année à la suite du démantèlement d'une cellule du groupe État islamique accusé d'en être responsable. En Afghanistan, un kamikaze a tué 4 civils et blessé 12 autres lors d'une attaque contre un convoi des forces américaines dans l'est du pays. L'attentat a eu lieu près de l'aéroport de la capitale provinciale de Jalalabad. Selon un porte-parole de la police locale, toutes les victimes étaient de nationalité afghane. Sachez aussi qu'Hillary Clinton va annoncer officiellement dimanche sur les réseaux sociaux et par vidéo sa candidature à la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Elle pourra ensuite se rendre dans les États de l'Iowa et du New Hampshire où commenceront les primaires. Voilà pour ce bulletin. Au micro, Morgane Guiriec.
Soyez au cœur de l'info.